Il faudrait, dit Hall qui avait prêté l'oreille à la conversation de Robin avec le confesseur du pauvre prisonnier, que vos hommes fussent placés à une courte distance du lieu de l'exécution. Ils seront à portée d'un appel, dit Robin. Comment ferez-vous pour les soustraire à la vue des soldats ?
Soyez sans inquiétude, mon cher Albert, répondit Robin. Mes joyeux hommes possèdent depuis longtemps l'art de se rendre invisibles, même sur les grands chemins, et croyez-moi, ils n'iront pas frôler de leur pourpoint la poitrine des soldats du baron, et ils ne feront leur entrée en scène qu'à un signal indiqué à l'avance.
Vous me paraissez si certain d'obtenir un succès, mon cher Robin, dit Alan, que j'en viens à souhaiter pour mes propres affaires une partie de la confiance qui vous anime en ce moment.
Chevalier, répondit le jeune homme, permettez-moi de mettre William en liberté, de le conduire à Barsdale, de le voir entre les mains de sa chère petite femme, et ensuite nous nous occuperons de Lady Christabel. Le mariage projeté ne doit point avoir lieu avant quelques jours. Nous avons le temps de nous préparer à une lutte sérieuse avec Lord Fitzhalwin.
Je vais entrer au château, dit Alan, et j'y apprendrai d'une manière ou d'une autre le secret de cette comédie. Si le baron a jugé à propos de rompre un engagement que l'honneur et la délicatesse devaient lui rendre sacré, je me trouverai en droit de mettre en oubli tout témoignage de respect, et il arrivera que, bon gré mal gré, Lady Christabel sera ma femme.
Vous avez raison, mon cher ami, présentez-vous sur le champ devant le baron. Il ne s'attend pas à votre visite, ce qui est très probable, la surprise vous le livrera, pieds et poings liés. Parlez-lui hardiment et faites-lui comprendre que vous êtes dans l'intention d'employer la force pour obtenir Lady Christabel. Pendant que vous allez faire auprès du Lord Fitzhalwin cette importante démarche, je vais aller retrouver mes hommes et les préparer à accomplir avec prudence l'expédition que je médite. Si vous avez besoin de moi, envoyez un exprès à l'endroit où nous nous sommes rencontrés il y a quelques instants. Vous êtes certain d'y trouver, à toute heure du jour ou de la nuit, un de mes braves compagnons. S'il est nécessaire pour vous d'avoir un entretien avec votre fidèle allié, vous vous ferez conduire à ma retraite. Maintenant, ne craignez-vous pas que, une fois entré au château, il vous devienne impossible d'en sortir ?
Lord Fitzhalwin n'oserait agir de violence avec un homme comme moi, répondit Alan. Il s'exposerait à un trop grand danger.
Du reste, s'il a réellement le projet de donner Christabel à cet abominable Tristram, il sera tellement pressé de se débarrasser de moi que j'ai plutôt à craindre qu'il refuse de me recevoir qu'à appréhender qu'il me retienne auprès de lui. Ainsi, adieu, ou plutôt au revoir, mon cher Robin. J'irai vous retrouver bien certainement avant la fin du jour.
Je vous attendrai.
Tandis qu'Alan Clare se dirigeait vers la poterne du château, Robin, Albert et Mutch gagnaient rapidement la ville. Introduit sans la moindre difficulté dans l'appartement de Lord Fitzhalwin, le chevalier se trouva bientôt en présence du terrible châtelain. Si un spectre se fût levé de son tombeau, il eût causé moins d'effroi et de terreur au baron que ne lui en fit éprouver la vue du beau jeune homme qui, dans une attitude digne et fière, se tenait debout devant lui. Le baron lança à son valet un regard si foudroyant que celui-ci s'échappa de la chambre de toute la vitesse de ses jambes.
« Je ne m'attendais pas à vous voir, » dit sa seigneurie en ramenant ses yeux enflammés de colère sur le chevalier.
« C'est possible, milord, mais me voilà. »«
Je le vois bien, heureusement pour moi que vous avez manqué à votre parole. Le terme que je vous avais fixé est échu depuis hier. »
« Votre seigneurie fait erreur, je suis exact au gracieux rendez-vous qu'elle m'a donné. »«
Il m'est difficile de vous croire sur parole. »
J'en suis fâché parce que vous allez me mettre dans l'obligation de vous y contraindre. Nous avons pris de plein gré des deux parts un engagement formel et je suis en droit d'exiger la réalisation de vos promesses.
Avez-vous rempli toutes les conditions du traité ?
Je les ai remplies. Il y en avait trois. Je devais être remis en possession de mes biens, je devais posséder 100 000 pièces d'or, je devais venir au bout de 7 ans vous demander la main de Lady Christabel.
« Vous possédez vraiment 100 000 pièces d'or ?» demanda le baron d'un air d'envie.
« Oui, milord, le roi Henri m'a rendu mes propriétés et j'ai reçu le revenu produit par mon patrimoine depuis le jour de la confiscation. Je suis riche et exige que dès demain, vous me donniez Lady Christabel. »
« Demain ?» s'écria le baron. « Demain ?
Et si vous n'étiez pas ici demain, ajouta-t-il d'un air sombre, le contrat serait nul ?
Oui, mais écoutez-moi, Lord Fitzhalwin. Je vous engage à éloigner de votre esprit le projet diabolique que vous méditez en ce moment. Je me trouve devant vous à l'heure fixée pour y paraître, et rien au monde, il ne faut pas songer à employer la force, rien au monde ne pourra me contraindre à renoncer à celle que j'aime. Si vous agissez de ruse, en désespoir de cause, je prendrai, soyez-en certain, une revanche cruelle. Je connais une mystérieuse particularité de votre vie, je la révélerai. J'ai vécu à la cour du roi de France, j'ai été initié au secret d'une affaire qui vous concerne personnellement.
Quelle affaire ? Interrogea le baron avec inquiétude.
Il est inutile pour le moment que j'entre avec vous dans de longues explications. Qu'il vous suffise de savoir que j'ai appris et garde en note le nom des misérables Anglais qui ont offert de livrer leur patrie aux joug étrangers.
Lord Fitzhalwin devint livide.
Tenez la promesse que vous m'avez faite, milord, et j'oublierai que vous avez été lâche et félon envers votre roi.
Chevalier, vous insultez un vieillard, dit le baron en prenant une attitude indignée.
Je dis la vérité et rien de plus. Encore un refus, milord, encore un mensonge, encore un subterfuge, et les preuves de votre patriotisme seront envoyées au roi d'Angleterre.
Il est bien heureux pour vous, Alan Clare, dit le baron d'un ton doucereux, que le ciel m'ait donné un caractère calme et patient. Si j'étais d'une nature irritable et emportée, vous expiriez cruellement votre audace, je vous ferais jeter dans les fossés du château.
Cette action serait une grande folie, milord, car elle ne vous sauverait pas de la vengeance royale.
Votre jeunesse est une excuse à l'impétuosité de vos paroles, chevalier. Je veux bien me montrer indulgent, alors qu'il me serait facile de punir. Pourquoi parler la menace aux lèvres avant de savoir si j'ai réellement l'intention de vous refuser la main de ma fille ?
Parce que j'ai acquis la certitude que vous avez promis Lady Christabel à un misérable et sordide vieillard, à Sir Tristram de Goldborough.
En vérité, et quel est, je vous prie, le bavard imbécile qui vous a raconté cette histoire ?
Ceci importe peu. Toute la ville de Nottingham est en rumeur à propos des préparatifs de ce riche et ridicule mariage.
Je ne puis être responsable, chevalier, des stupides mensonges qui circulent autour de moi.
Alors vous n'avez pas promis à Sir Tristram la main de votre fille ?
Permettez-moi de ne point répondre à cette question. Jusqu'à demain, je suis libre de penser et de vouloir à ma guise. Demain est à vous. Venez, je donnerai à vos désirs une entière satisfaction.
Adieu, chevalier Clare, ajouta le vieillard en se levant. Je vous souhaite bien le bonjour et je vous prie de me laisser seul.
Au plaisir de vous revoir, baron Fitzhalwin. Souvenez-vous qu'un gentilhomme n'a qu'une parole.
Très bien, grommela le vieillard en tournant le dos à son visiteur.
Alan sortit de l'appartement du baron, le cœur rempli d'inquiétude. Il n'y avait point à se le dissimuler, le vieux seigneur méditait quelque perfidie. Son regard plein de menaces avait accompagné le jeune homme jusqu'au seuil de la chambre. Puis il s'était retiré dans l'embrasure d'une fenêtre, dédaignant de répondre au dernier salut du chevalier. Aussitôt qu'Alan eut disparu, le jeune homme se rendait auprès de Robin Hood. Le baron agita avec violence une sonnette placée sur la table.
« Envoyez-moi Pierre Lenoir !» dit brusquement le baron.
« À l'instant, milord !»
Quelques minutes après, le soldat demandé par Lord Fitzhalwin paraissait devant lui.
« Pierre, dit le baron, vous avez sous vos ordres de braves et discrets garçons qui exécutent sans les commander les ordres qu'on leur donne ?»«
Oui, milord.
Ils sont courageux et savent oublier les services qu'ils sont à même de rendre ?»«
Oui, milord.
C'est bien, un cavalier élégamment vêtu d'un habit rouge vient de sortir d'ici. Suivez-le avec deux bons garçons et faites en sorte qu'il ne gêne plus personne. Vous comprenez ?»
« Parfaitement, milord, répondit Pierre Lenoir avec un affreux sourire et en tirant à moitié de son fourreau un gigantesque poignard.
« Vous serez récompensé, brave Pierre. Allez sans crainte, mais agissez secrètement et avec prudence. Si ce papillon suit le chemin du bois, laissez-le pénétrer sous les arbres, et là, vous aurez le champ libre. Une fois expédié dans l'autre monde, enterrez-le au pied de quelques vieux chênes, couvrez la place de feuillages et de ronces. Personne ne pourra ainsi découvrir son cadavre. Vos ordres seront fidèlement exécutés, milord, et lorsque vous me reverrez, ce cavalier dormira sous un tapis de vergazon. Je vous attends, suivez sans retard cet impertinent damoiseau. » Accompagné de deux hommes, Pierre Lenoir sortit du château et se trouva bientôt sur les traces du chevalier. Celui-ci, le front pensif, l'esprit absorbé et le cœur gonflé de tristesse, marchait lentement du côté de la forêt de Sherwood. En voyant le jeune homme sous l'ombrage des arbres, les assassins qui étaient sur sa piste tressaillirent d'une sinistre joie. Ils hâtèrent le pas et se tinrent cachés derrière un buisson, prêts à s'élancer sur le jeune homme au moment opportun. Alan Clair chercha des yeux le conducteur promis par Aubin et, tout en explorant les environs, il réfléchissait aux moyens qu'il fallait prendre pour arracher Christabel d'entre les mains de son indigne père. Un bruit de pas rapide vint arracher le chevalier à sa douloureuse rêverie. Il tourna la tête et aperçut trois hommes au visage sinistre qui, l'épée à la main, s'avançaient vers lui. Alan s'adossa contre un arbre, tira son épée du fourreau et dit d'un ton ferme « Misérable, que me voulez-vous ? » « Nous voulons ta vie, élégant papillon !» cria Pierre Lenoir en s'élançant sur le jeune homme. « Arrière, coquin !» dit Alan en frappant son agresseur au visage. « Arrière tous !» continua-t-il en désarmant avec une adresse incomparable le second de ses adversaires. Pierre Lenoir redoubla d'efforts, mais il ne put réussir à frapper son adversaire qui avait mis non seulement un des assassins hors de combat en envoyant son épée sur les branches d'un arbre, mais qui avait encore fendu le crâne au troisième. Désarmé et ivre de rage, Pierre Lenoir arracha un jeune arbuste et revint vers Alan. Il frappa le chevalier sur la tête avec tant de violence que celui-ci laissa échapper son arme et tomba sans connaissance. « La proie est abattue !» cria joyeusement Pierre en aidant ses compagnons blessés à se remettre sur leurs jambes. « Traînez-vous jusqu'au château et laissez-moi seul, j'achèverai ce garçon. » Votre présence ici est un danger et vos plaintes me fatiguent. Allez-vous-en, je creuserai moi-même le trou où je dois enfouir le corps de ce jeune seigneur. Donnez-moi la bêche que vous avez apportée. » La voici, dit un des hommes. Pierre, ajouta le misérable, je suis à demi-mort, il me sera impossible de marcher. Décampe ou je t'achève, répliqua Pierre. Les deux hommes, transis de douleur et d'épouvante, se traînèrent péniblement hors du fourré. Resté seul, Pierre se remit à l'œuvre. Il avait en partie achevé sa terrible besogne lorsqu'il reçut sur l'épaule un coup de bâton si énergiquement appliqué qu'il tomba de tout son long sur le bord de la fosse. Lorsque la violence de la douleur se fut un peu apaisée, le misérable tourna les yeux vers celui qui venait de le gratifier d'une aussi juste récompense. Il aperçut alors le visage rubicond d'un robuste gaillard vêtu du costume des frères dominicains. « Comment, profane coquin au museau noir ? » cria le frère d'une voix de stentor. « Tu frappes un gentilhomme à la tête et afin de cacher ton infamie, tu enterres ta malheureuse victime ? Réponds à ma question, brigand, qui es-tu ? » « Mon épée va parler pour moi, » dit Pierre en bondissant sur ses pieds. Elle va t'envoyer dans l'autre monde, et là, il te sera loisible de demander à Satan le nom que tu désires savoir. Je n'aurais pas besoin de me donner cette peine si j'avais le malheur de mourir avant toi, insolent coquin. Je lis sur ton visage ta parenté avec l'enfer. Maintenant, permets-moi de donner à ton épée le conseil de se taire, car si elle tente de remuer la langue, mon bâton lui imposera un éternel silence. Va-t'en d'ici, c'est ce que tu as de mieux à faire. Pas avant de t'avoir montré que je suis habile tireur, dit Pierre en frappant le moine de son épée. Le coup fut si rapide, si violent, si adroitement dirigé, qu'il atteignit le frère à la main gauche en lui coupant trois doigts jusqu'à l'os. Le moine jeta un cri, tomba sur Pierre comme la foudre, le courba sous sa puissante étreinte et lui appliqua une volée de coups de bâton. Alors, une sensation étrange s'empara du misérable assassin. Il perdit son épée, ses yeux se troublèrent, le sens des choses lui échappa, il devint fou et perdit la force de se défendre. Lorsque le frère cessa de frapper, Pierre était mort. « Le fripon !» murmura le moine, épuisé de douleur et de fatigue. « Le damné fripon ! Croyait-il que les doigts du pauvre Tuck fussent faits pour être coupés par un chien normand ? Je lui ai donné, je crois, une bonne leçon. Malheureusement, il lui sera difficile de la mettre à profit puisqu'il a rendu le dernier souffle. Tant pis, c'est sa faute et non la mienne. Pourquoi a-t-il tué ce joli garçon ? Ah, mon Dieu ! S'écria le bon frère en portant sa main restée intacte sur le corps du chevalier. Il respire encore, son corps est chaud et son cœur bat, faiblement, il est vrai, mais assez pour révéler un reste de vie. Je vais le prendre sur mes épaules et le porter à la retraite. Pauvre jeune homme, il n'est pas lourd. Quant à toi, vil assassin, ajouta Tuck en repoussant du pied le corps de Pierre. Reste là, et si les loups n'ont pas encore dîné, tu leur serviras de pâture. Cela dit, le moine se dirigea d'un pas ferme et rapide dans la direction de la demeure des joyeux hommes. Quelques mots suffiront pour expliquer la capture de Will Écarlate. L'homme, qui avait rencontré Will en compagnie de Robin Hood et de Petit Jean dans une auberge de Mansfield, était, par ordre supérieur, à la recherche du fugitif. Voyant le jeune homme en compagnie de 5 robustes gaillards qui pouvaient lui prêter main forte, le prudent batteur d'estrade avait retardé le moment de sa capture. Il était sorti de l'auberge, avait envoyé à Nottingham la demande d'une troupe de soldats, et ceux-ci, guidés par l'espion, s'étaient rendus à Barnsdale au milieu de la nuit. Le lendemain, une étrange fatalité conduisit Will hors du château. Le pauvre garçon tomba entre les mains des soldats et il fut enlevé sans pouvoir opposer la moindre résistance. William se livra d'abord à un violent désespoir. Puis la rencontre de Mutch lui rendit quelque espérance. Il comprit vite qu'une fois instruit de sa malheureuse situation, Robin Hood ferait tout au monde pour lui venir en aide et que, s'il ne pouvait réussir à le sauver, du moins ne reculerait-il devant aucun obstacle pour venger sa mort. Il savait aussi, et c'était là une grande consolation pour son pauvre cœur, que bien des larmes seraient répandues sur sa cruelle destinée. Il savait encore que Maud, si heureuse de son retour, pleurerait amèrement la perte de leur mutuel bonheur. Renfermé dans un sombre cachot, Will attendait dans les angoisses de la crainte l'heure fixée pour son exécution, et chaque heure lui apportait à la fois une espérance et une douleur. Le pauvre prisonnier prêtait anxieusement l'oreille à tous les bruits venus du dehors, espérant percevoir l'écho lointain du corps de Robin Hood. Les premières lueurs du jour trouvèrent William en prière. Il s'était pieusement confessé au bon pèlerin, et l'âme recueillie, le cœur confiant en celui dont il attendait la secourable présence, Will se prépara à suivre les gardes du baron, qui devait venir le chercher au lever du soleil. Les soldats placèrent William au milieu d'eux et ils prirent le chemin de Nottingham. En pénétrant dans la ville, l'escorte se trouva bientôt entourée d'une grande partie des habitants qui, depuis le matin, étaient dans l'attente de l'arrivée du funèbre cortège. Quelque grand que fût l'espoir du malheureux jeune homme, il le sentit chanceler en ne voyant autour de lui aucun visage de connaissance. Le cœur de William se gonfla, des larmes violemment contenues mouillèrent ses paupières. Néanmoins, il espéra encore, car une voix secrète lui disait « Robin Hood n'est pas loin, Robin Hood va venir ». En arrivant au pied de la hideuse potence qui avait été dressée par les ordres du baron, William devint livide. Il ne s'attendait pas à mourir d'une mort aussi infamante. « Je désire parler à Lord Fitzhalwin, » dit-il. En sa qualité de shérif, ce dernier était tenu d'assister à l'exécution. « Que voulez-vous de moi, malheureux ?» demanda le baron. « Milord, ne puis-je espérer d'obtenir grâce ?»« Non, » répondit froidement le vieillard. Alors, reprit William d'un ton calme, j'implore une faveur qu'il est impossible à une âme généreuse de me refuser. Quelle faveur ? Milord, j'appartiens à une noble famille saxonne, son nom est le synonyme d'honneur, et jamais aucun de ses membres n'a encouru le mépris de ses concitoyens. Je suis soldat et gentilhomme, je dois mourir de la mort d'un soldat. »
Vous serez pendu, dit brutalement le baron.
Milord, j'ai risqué ma vie sur les champs de bataille et je ne mérite pas d'être pendu comme l'est un voleur.
Ah ah, vraiment, ricana le vieillard. Et de quelle façon désirez-vous expier votre crime?
Donnez-moi une épée et ordonnez à vos soldats de me frapper de leurs lames. Je voudrais mourir comme meurt un honnête homme, les bras libres et le visage tourné vers le ciel.
Me croyez-vous assez imbécile pour risquer l'existence d'un de mes hommes afin de satisfaire votre dernier caprice?
Du tout, du tout, vous allez être pendu.
Milord, je vous en conjure, je vous en supplie, ayez pitié de moi. Je ne demande même pas d'épée, je ne me défendrai pas, je laisse vos hommes me tailler en morceaux.
Misérable, dit le baron, tu as tué un Normand et tu implores la pitié d'un Normand? Tu es fou! Arrière, tu mourras sur la potence et bientôt, je l'espère, tu auras pour compagnon le bandit qui infeste la forêt de Sherwood de son entourage de fripons.
Si celui dont vous parlez avec tant de mépris était à portée de ma voix, je rirais de vos bravades, lâche poltron que vous êtes. Souvenez-vous de ceci, baron Fitzalwin. Si je meurs, Robin Hood me vengera. Prenez garde de Robin Hood. Avant que la semaine soit écoulée, il sera au château de Nottingham.
Qu'il vienne en compagnie de toute sa bande, je ferai dresser 200 potences.
Bourreau, faites votre devoir, ajouta le baron.
Le bourreau mit la main sur l'épaule de William. Le pauvre garçon jeta autour de lui un regard désespéré et ne voyant qu'une foule silencieuse et attendrie, il recommanda son âme à Dieu.
Arrêtez, dit la voix tremblante du vieux pèlerin, arrêtez, j'ai une dernière bénédiction à donner à mon malheureux pénitent.
Vous avez accompli tous vos devoirs auprès de ce misérable, cria le baron d'un ton furieux. Il est inutile de retarder davantage son exécution.
Impie, s'écria le pèlerin, voudriez-vous priver ce jeune homme des secours de la religion?
Hâtez-vous, répondit Lord Fitzalwin avec impatience. Je suis fatigué de toutes ces lenteurs.
Soldats, éloignez-vous un peu, dit le vieillard. Les prières d'un moribond ne doivent point tomber dans des oreilles profanes.
Sur un signe du baron, les soldats mirent une certaine distance entre eux et le prisonnier.
William et le pèlerin se trouvèrent seuls au pied de la potence. Le bourreau écoutait respectueusement les ordres du baron.
« Ne bougez pas, Will, » dit le pèlerin courbé devant le jeune homme.
« Je suis Robin Hood. Je vais couper les liens qui entravent vos mouvements. Nous nous élancerons au milieu des soldats. La surprise leur fera perdre la tête. »«
Soyez béni. Ah, mon cher Robin, soyez béni !» murmura le pauvre Will, suffoqué de bonheur.
« Baissez-vous, William. Feignez de me parler. Bon, voici vos liens coupés. » Prenez l'épée qui est suspendue sous ma robe. La tenez-vous ?
Oui, murmura Will.
Très bien. Maintenant, appuyez votre dos contre le mien. Nous allons montrer à Lord Fitzalwin que vous n'êtes point venu au monde pour être pendu.
Par un geste plus rapide que la pensée, Robin Hood fit tomber sa robe de pèlerin et montra aux regards ébahis de l'assemblée le costume bien connu du célèbre forestier.
« Milord, cria Robin d'une voix ferme et vibrante, William Gamwell fait partie de la bande des joyeux hommes. Vous me l'aviez enlevé, je suis venu le reprendre. En échange, je vais vous envoyer le cadavre du coquin qui avait reçu de vous la mission de tuer lâchement le chevalier Alan Clare. »
« 500 pièces d'or au brave qui arrêtera ce bandit !» hurla le baron. « 500 pièces d'or au vaillant soldat qui lui mettra la main sur l'épaule !»
Robin Hood promena sur la foule, immobile de stupeur, un regard étincelant.
« Je n'engage personne à risquer sa vie, dit-il. Je vais être entouré de mes compagnons. »
En achevant ces mots, Robin sonna du cor, et au même instant, une nombreuse troupe de forestiers sortit du bois, les mains armées de leur arc tendu.
« Aux armes ! Cria le baron. « Aux armes ! Fidèles Normands, exterminez tous ces bandits !» Une volée de flèches enveloppa la troupe. Le baron, saisi d'effroi, se jeta sur son cheval et le dirigea, en jetant de grands cris, dans la direction du château. Les citoyens de Nottingham, éperdus d'épouvante, s'élancèrent sur les traces de leur seigneur, et les soldats, entraînés par la terreur de cette panique générale, se sauvèrent au triple galop. « La forêt est Robin Hood !» criaient les joyeux hommes en chassant leurs ennemis devant eux avec de grands éclats de rire. Citoyens, forestiers et soldats traversèrent la ville pêle-mêle, les uns muets d'effroi, les autres riant, les derniers la rage dans le cœur. Le baron pénétra le premier dans l'intérieur du château. Tout le monde l'y suivit, à part les joyeux hommes qui, arrivés là, saluèrent par des acclamations dérisoires leurs pusillanimes adversaires. Lorsque Robin Hood, accompagné de sa troupe, eut repris le chemin de la forêt, les citoyens qui n'étaient point blessés et qui n'avaient rien perdu dans cette étrange algarade proclamèrent le courage du jeune chef et sa fidélité au malheur. Les jeunes filles mêlèrent leur douce voix à ce concert d'éloges et il arriva même que l'une d'elles en vint à déclarer que les forestiers lui paraissaient si aimables et si bienveillants et qu'elle ne craindrait plus désormais de traverser la forêt toute seule.